Alors, le gouvernement Legault va présenter aujourd'hui son plan d'action sur la violence conjugale.
Grosse annonce, Paul. Vraiment, là, 180 millions. Je vais vous détailler quelques-unes des mesures là, qui vont être mises de l'avant par la ministre Isabelle Charest, accompagnée aujourd'hui de Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique. Mais d'abord, un peu de contexte, Paul. Il y a presque un an, jour pour jour, il est survenu ce triple meurtre à Pointe-aux-Trembles. Mm-hmm. On retrouve le corps d'une femme de 42 ans et les corps de ses deux garçons âgés de 2 et 4 ans. Ils avaient été assassinés par l'ex-conjoint qui s'était ensuite enlevé la vie à l'hôpital de Joliette.
Joliette, ouais.
Voilà, exactement. Et on avait découvert à ce moment-là, Paul, que le tueur avait des antécédents de violence conjugale. Il avait été accusé de voies de fait simples, il avait été accusé de voies de fait armées. Mais comme c'est très souvent le cas, trop souvent le cas, ça s'était réglé par ce qui s'appelle un 810 dans le milieu, c'est-à-dire une ordonnance de garder la paix et de ne pas entrer en contact avec la plaignante. Mais évidemment, dans le cas du triple meurtre de Pointe-aux-Trembles, comme ça arrive trop souvent, l'assassin a signé l'ordonnance. Et puis, quelques jours plus tard, il est allé enlever la vie à son ex-conjointe et aux deux enfants. Bon. Et là, François Legault avait dit, ça n'a pas de bon sens. Je demande à Mme Charest de me présenter un plan d'action contre la violence conjugale. Et c'est ça qu'elle va déposer cet après-midi à 15 heures. Et dans le cadre de ce plan-là, Paul, pour en revenir au triple meurtre, le gouvernement va annoncer qu'ils vont étudier la faisabilité de mettre en place le bracelet anti-rapprochement. Donc, ça, c'est pour prévenir des drames comme celui de Pointe-aux-Trembles. Geneviève Lajoie a eu l'info, je l'ai eu moi aussi hier soir. Alors, le bracelet anti-rapprochement, il a été adopté en Espagne. Il est en vigueur également en France depuis septembre dernier. Alors, ça consiste à quoi? Le bracelet est porté au poignet ou à la cheville par l'ex-conjoint violent. La victime, elle porte de son côté un récepteur équipé d'un GPS. Et dès que l'homme violent se rapproche trop de la femme qui l'a menacée ou qui l'a agressée par le passé, dès qu'il pénètre dans le périmètre de sécurité qui a été établi par le juge, ben là, ça sonne. Et là, évidemment, il y a un message donc qui est envoyé à la femme qui peut à ce moment-là fuir avant que l'homme arrive et qui peut donc aussi prévenir les policiers. Bon. En Espagne, Paul, depuis 2009, depuis qu'ils ont mis ça en place, le bracelet anti-rapprochement, il n'y a eu aucune femme qui a été assassinée par un homme qui portait un bracelet comme celui-là, qui était donc surveillé de manière électronique. Alors évidemment, chez nous, Paul, il va y avoir tout de suite des enjeux de charte des droits qui seront soulevés, parce que est-ce que tu peux contraindre la liberté de mouvement d'une personne dont la culpabilité n'a pas été reconnue? Parce que je te rappelle, le 810, souvent, c'est en échange de l'abandon des accusations. Fait que l'homme accepte de respecter une certaine distance et la femme abandonne les accusations. Dans ce cas-ci, on peut présumer que l'homme accepterait de porter un bracelet en échange donc de l'abandon des accusations. Mais est-ce que ça respecte les chartes, la présomption d'innocence, tatati, tatata? C'est ça qu'il va falloir examiner dans le cadre de ce projet pilote que Québec va annoncer aujourd'hui.
Mais là, Québec annonce quoi? C'est parce que, regarde, il annonce qu'ils vont l'étudier.
Oui.
Il annonce un projet pilote.
Comme il y en a eu un en Alberta, c'est la seule province qui l'a regardé de 2011 à 2014, puis ils l'ont abandonné parce qu'il n'y avait plus de financement. Fait que là, ils vont...
Mais est-ce que la technologie fonctionne? Visiblement, oui.
Il paraît que la technologie s'est beaucoup raffinée.
Fait que tu me dis qu'ils ont ça en Espagne depuis...
2009, que je t'ai dit.
On est en 2020, puis si on commence juste à penser, peut-être que ça serait une bonne idée.
Oui, c'est ça. Mais on est la première province... Enfin, on serait la deuxième, mais l'Alberta, comme je te dis, 2009, l'Espagne.
Est-ce que c'est la hantise de toute femme violentée, de toute femme menacée, c'est-à-dire de voir l'ex... Il y en a qui passent devant la porte, il y en a qui...
C'est l'enfer, Paul. C'est l'enfer.
Je peux t'en compter jusqu'à demain. Là, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste de venir cogner à la porte. Là. C'est de savoir que t'es dans le coin. C'est de savoir qu'il est pas loin.
C'est ça. Puis là, t'as un périmètre de sécurité. Donc, par exemple...
Puis la police dit on peut rien faire. Parce qu'on ne l'a pas vu, on ne l'a pas pris sur le fait. Puis,
c'est ça. Alors là, mettons, le juge dit, tu dois garder tes distances avec ton ex. Tu ne peux pas t'en approcher de plus de 10 km ou 20 km ou 30 km, peu importe. Dès qu'il rentre dans le périmètre, ça sonne. La femme le sait qu'il s'approche. Donc, elle peut se protéger. Ben, elle peut fuir la place d'abord, tu comprends? Aussi, pas attendre qu'il arrive, parce que les policiers, malheureusement, des fois, ils arrivent trop tard. Bon. Alors, mais tu poses la question, qu'est-ce qu'il annonce? Alors, il annonce ça, mais il annonce pas juste ça. 180 millions, tu comprends qu'il y a pas mal de mesures. Sur les 180, là, il y a 120 millions sur 5 ans qui vont être réservés aux maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. 120 millions sur 5 ans. C'est ça qu'Isabelle Charest va annoncer.
Question.
Oui.
J'espère que c'est un financement récurrent, là. C'est pas une affaire que tu lances une année, puis après ça, les pauvres organismes doivent se représenter puis justifier le financement. Parce que, tu sais, souvent, là, on annonce des grosses sommes, coup d'éclat.
Oui.
Puis après ça, l'année d'après, ben là.
Ce que je comprends, c'est que ça va être récurrent pour les. Il y en a déjà 118 maisons d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales qui accueillent quand même 6000 femmes et 4000 enfants chaque année dans les 118 existantes. Là, elle va annoncer du financement. Ce que je comprends, c'est qu'il va être récurrent pour les 118, mais elle va en ajouter. Elle va créer des nouvelles maisons d'hébergement, des nouvelles places. Combien? Ça, j'ai pas été capable de le savoir, mais j'ai l'impression que ça va être ça le clou de l'annonce d'aujourd'hui. Dans les autres mesures qui vont être annoncées, ils vont créer un service juridique d'urgence pour déterminer les droits de garde de l'enfant ou des enfants dans le contexte de violence conjugale. C'est parce que t'as des femmes qui ne portent pas plainte parce qu'elles ont peur de perdre la garde de l'enfant. Elles ont peur de quitter le domicile parce qu'elles disent « Si je quitte le domicile, c'est-tu lui qui va garder les enfants? » Alors, aujourd'hui, Isabelle Charest va annoncer un service juridique qui va déterminer rapidement, qui va accompagner les femmes dans ces situations-là pour les aider à y voir clair. Ils vont annoncer aussi des cellules d'intervention rapide. C'est Véronique Prince qui a l'information ce matin. Pour agir rapidement, tu as des policiers, des gens de la DPJ, des travailleuses sociales qui vont dès qu'il y a un signalement de violence conjugale qui les aide, tu as certaines régions du Québec qui ont déjà ces cellules-là, il va y avoir plus de régions qui vont en avoir. Et ils annoncent aussi, Paul, 5 millions pour les hommes violents.
Les thérapies, là.
Oui. Ça fait débat. Tu as des organismes qui s'appellent Hackers d'hommes. Tu en as 31 au Québec. Et là, Isabelle Charest va leur donner 5 millions. Puis tu sais que...
Mais pourquoi ça fait un débat?
Ben parce que il y a des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales qui trouvent que cet organisme-là, Hackers d'hommes, ne responsabilise pas suffisamment les hommes violents. Et l'approche, moi, ce que je comprends, là, l'approche du gouvernement Legault, ça va être de dire, regarde, l'homme fait partie du problème, faut qu'il fasse partie de la solution. Fait qu'on va les aider, les hommes violents, pour qu'ils comprennent d'où viennent leurs violences, pour qu'ils apprennent à la contrôler. Tu sais? Puis moi, je suis d'accord avec ça. Je le dis, là. Je dis, Paul, il faut aider les femmes. C'est elles les victimes. Mais dans certains cas, ces hommes-là ont été eux-mêmes des victimes de violences parentales. Et puis, je pense qu'il faut les aider. Dans certains cas, il faut qu'ils apprennent à gérer leurs pulsions destructrices. Fait que c'est ça. Alors, c'est à 15h cet après-midi, okay. C'est une grosse annonce. Une grosse annonce.
Bon, alors, on n'est pas rendu au 11 décembre. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire cet après-midi?
Ah, ça, j'ai bien essayé de le savoir. J'ai pas pu le savoir.
Ça me permettre un conseil.
On parle évidemment de François Legault
à 13h.
Le point de presse qu'on va diffuser.
Tu sais, pour ce qui est des réunions de famille, là, je pense que les gens ont décidé ou vont décider, peu importe ce que le gouvernement va décider. Là.
Mm-hmm.
L'enjeu, c'est... Les personnes âgées dans les résidences, là, les RAP, là, les RPA, c'est-à-dire, CHSLD. Là. C'est très variable. Là. Est-ce que je peux aller voir mon père, ma mère à Noël? Est-ce que je peux l'amener à la maison? Il y a eu des éclosions dans des places. Si j'y vais, je sais quoi les... Je ne dis pas qu'il y a une formule pour tout, pour universelle.
Mur à mur, oui.
Mais il y aurait intérêt à clarifier ça. Parce que le miracle du 11 décembre, personne n'y
croit. Ça n'arrivera pas. Là. Hier, on a pété les 1500 cas. Mais je veux revenir sur ce que je t'ai dit hier. L'inquiétude que j'ai par rapport à l'annulation des rassemblements, qui est de plus en plus probable, là. Et évidemment la détresse humaine que ça va causer chez les personnes seules. Bon, je t'en ai parlé hier. Bon, hier, j'ai demandé aux auditeurs pendant mon émission, je disais, amenez-moi des idées, là, tu sais, comment on pourrait aider personnes seules. Paul, c'est fascinant. D'abord, il s'en fait déjà beaucoup.
Mm-hmm.
T'as des enseignants qui font signer des cartes de Noël à leurs élèves, puis ils vont porter ça aux aînés du CHSLD du coin. T'as des dames qui vont faire du sucre à crème. Tu sais, une dame, là, par exemple, dont la maman était en CHSLD, elle est décédée, mais elle va y retourner quand même parce qu'elle s'est attachée à cet endroit-là. Ça lui rappelle un peu la mémoire de sa mère, fait qu'elle va aller porter du sucre à crème. Bon. T'as des groupes de chanteurs qui vont s'organiser puis qui vont aller chanter aux fenêtres des RPA.
Ben, on avait t'sais, vu dans, ça au printemps aussi.
Exactement. Ouais. Et là, je veux attirer ton attention sur une initiative de Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia. Lors de la première vague, lui, c'est qu'il a fait, il a organisé une opération d'appel automatisé des robocalls. Il a demandé au directeur général des élections d'avoir accès à la liste électorale, d'avoir accès aux renseignements personnels. Et là, il a placé un appel chez plusieurs milliers de ses concitoyens. Il leur laisse un message, il leur dit « Je suis là pour vous. Si vous avez besoin d'aide, appelez-moi au bureau de comté, on va vous aider. » Et les gens, s'ils pèsent sur le 1, mettons, ils peuvent laisser un message vocal aux députés. Et lui, il en a reçu, là. Il en a reçu 15-20. Fait que tu peux laisser un message, dire « J'ai peur d'être toute seule, j'aimerais ça avoir un appel à Noël, j'ai peur de manquer de nourriture à Noël. » Et donc, ça permet aux députés, avec son équipe, d'aider les gens de son comté. Moi, je me dis, si c'est bon pour Bérubé, si le DGE donne la permission à Bérubé d'utiliser la liste électorale, il pourrait le donner à tous les députés de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une belle initiative qui mérite d'être soulignée et qui pourrait être partagée par d'autres députés.
Merci, monsieur. Bonne journée.
Je te souhaite bonne journée.
7h12, la métropolitaine.